إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui au 13e hadith mentionné par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans son célèbre ouvrage « Les jardins des vertueux » au chapitre « Sur la diversité des voies de bien ». Ce hadith est rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le serviteur musulman ou croyant fait ses ablutions et lave son visage, tout péché qu'il a commis avec ses yeux sort de son visage avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les mains, tout péché commis avec ses mains sort de celle-ci avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Lorsqu'il se lave les pieds, tout péché vers lequel il a marché est effacé avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau, jusqu'à ce qu'il termine purifié des péchés. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc dans ce hadith un des mérites immenses des ablutions. Lorsque tu te purifies pour la prière, cette purification est un moyen de te laver de tes péchés. Il est donc nécessaire pour le croyant, au moment de cette purification, d'être conscient de cela et de ne pas faire de cette noble adoration un acte ordinaire, oubliant ainsi que c'est une manière de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, lorsque tu fais tes ablutions, tu dois te rappeler que tu te soumets à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit dans son livre verset 6 de Surat al-Ma'ida, « Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila s-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. » وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Ceci sont les ablutions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées dans son livre. Et celles-ci purifient le visage, les mains, la tête et les pieds d'une purification physique. Mais également, ceci est une purification morale. C'est une purification physique, en effet, car, à chaque fois que tu fais tes ablutions, tu laves ses membres. Tu te laves le visage, tu te laves les mains jusqu'aux coudes, tu passes les mains mouillées sur ta tête, et tu laves tes pieds jusqu'aux chevilles. Ceci est donc une manière de se purifier physiquement. Et bien sûr, la tête, on ne fait que passer les mains mouillées. On ne la lave pas. Et ça, c'est une précision importante à souligner. Car bon nombre de personnes parmi les musulmans n'ont pas conscience de cela et pensent, lorsqu'ils font les ablutions, qu'il faut se laver la tête. Et tu les vois alors frotter leurs cheveux durant les ablutions. Et ceci est contraire à ce qui est légiféré, contraire à la sunna. Car Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il nous a facilité lors des ablutions en ne légiférant pour nous que le fait de passer nos mains mouillées sur nos têtes. Car s'il faudrait les laver, ceci serait une difficulté. D'autant plus en hiver, lorsqu'il fait froid. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a facilité cela pour nous et n'a légiféré que le fait de passer nos mains mouillées sur nos têtes. Donc lorsque tu fais tes ablutions, tu te purifies physiquement de cette manière. Et tu vois à travers cela la perfection de notre religion. Et ces ablutions, ce sont également une purification morale. Et celle-ci, il est important que tu la recherches et que tu la vises au moment de tes ablutions. C'est-à-dire que tu aies conscience que tes ablutions sont une cause également pour te purifier de tes péchés. Comme il est venu dans ce hadith. Lorsque tu laves ton visage, tout péché que tu as commis avec tes yeux sort de ton visage avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Est-ce que ce sont seulement les péchés commis avec les yeux qui sortent à ce moment-là? La réponse est non. Mais les gens de science ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné les yeux, car c'est avec les yeux que se produisent le plus de péchés parmi les membres du visage. Mais également, comme vous le savez, la personne fait des péchés avec sa langue. en prononçant des paroles interdites. Mais aussi la personne peut faire des péchés avec son nez, en sentant une chose qu'elle n'a pas le droit de sentir. Donc tous ces péchés, lorsque tu fais tes ablutions et que tu laves ton visage, ils sortent de ton visage avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Ensuite, tu te laves les mains. Et tout péché commis avec tes mains sort de celle-ci avec l'eau avec la dernière goutte d'eau. Puis tu te laves les pieds et tout péché vers lequel tu as marché est effacé avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau, jusqu'à ce que tu termines tes ablutions en étant purifié de tes péchés. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir ordonné les ablutions, a dit dans le même verset « Ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj » Allah ne veut pas vous imposer une quelconque gêne. « Walakin yuridu liyutahhirakum » Mais il veut vous purifier. C'est-à-dire vous purifier physiquement, mais aussi vous purifier moralement. Vous purifier en apparence, et vous purifier également intérieurement. « وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » Afin de parfaire sur vous son bienfait, peut-être serez-vous reconnaissant. En effet, il est nécessaire pour le croyant d'être conscient de ce bienfait. Que le simple fait de te purifier pour la prière est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et expie tes péchés. Donc lorsque tu fais tes ablutions, tu dois être conscient de cela. Que tes ablutions sont une cause d'expiation de tes mauvaises actions. Et si tu penses à cela, ceci t'aidera à parfaire tes ablutions, à les accomplir de la meilleure manière, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces ablutions. Car nombre de personnes, malheureusement, ils font les ablutions de manière coutumière, sans réfléchir à cela, sans penser que ces ablutions sont une adoration, sans penser que ces ablutions sont une cause d'expiation de ses péchés, et ainsi de suite. Tu dois donc être conscient de cela et espérer ce qu'il y a auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car les ablutions sont une voie immense parmi les voies de bien par lesquelles tu te rapproches de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Le 14e hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné, est également rapporté par Abu Huraira, radiyallahu ta'ala, anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les cinq prières, c'est-à-dire les cinq prières quotidiennes, la prière du vendredi jusqu'à la suivante, le mois de Ramadan jusqu'au suivant, expie les péchés commis entre eux, à condition que les grands péchés soient évités. Et ce hadith est également rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers ce hadith une autre cause de l'expiation des péchés, qui sont les cinq prières, la prière du vendredi et le mois de Ramadan. C'est-à-dire que lorsque tu accomplis tes cinq prières quotidiennement, lorsque tu fais le fajr, les péchés que tu as commis entre Salat al-Isha et Salat al-Fajr sont expiés. Lorsque tu fais le dhuhr, les péchés que tu as commis entre le fajr et le dhuhr sont expiés. Lorsque tu fais le asar, les péchés que tu as commis entre le dhuhr et le asar sont expiés. Lorsque tu fais le maghreb, les péchés que tu as commis entre le asar et le maghreb sont expiés. Puis enfin, lorsque tu fais le Isha, les péchés que tu as commis entre le maghreb et le Isha sont expiés. À chaque fois que tu accomplis une prière, c'est une expiation des péchés que tu as commis entre celle-ci et la prière précédente. Par conséquent, s'il arrive à la personne de faire une mauvaise action, de faire un faux pas, mais qu'elle est assidue à ses prières, et qu'elle les accomplit de la meilleure manière, alors ses péchés sont expiés, bi'idhnillahi ta'ala. Et de la même manière en ce qui concerne la prière du vendredi. Lorsque l'homme accomplit la prière du vendredi, alors les péchés qu'il a accomplis entre celle-ci et celle du vendredi précédent sont expiés. Également le mois de Ramadan. Lorsque tu jeûnes le mois de Ramadan, les péchés que tu as accomplis durant toute l'année depuis le mois de Ramadan précédent sont expiés. Tu vois donc que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous est immense. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émis ici une condition importante. Il a dit à condition de s'écarter des grands péchés. Qu'est-ce que désignent les grands péchés? En effet, les péchés ne sont pas tous de la même sorte. Parmi les péchés, il y a des péchés qui sont moindres et d'autres qui sont plus graves et que l'on appelle les grands péchés. Et les gens de science ont expliqué que les grands péchés désignent tout ce pour quoi il y a une sanction particulière. Ou alors, tout péché dont l'auteur a été maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, tout péché pour lequel une peine légale a été légiférée. Ou tout péché pour lequel son auteur est sous la menace d'un châtiment dans l'au-delà, où tout péché dont la foi de son auteur est infirmée, c'est-à-dire la perfection de sa foi. À l'exemple de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que celui qui boit de l'alcool n'est pas croyant au moment où il boit de l'alcool, que celui qui commet la fornication n'est pas croyant au moment où il commet la fornication, que celui qui vole n'est pas croyant au moment où il vole, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il a infirmé la perfection de la foi. Et ceci nous montre que ces péchés font partie des grands péchés. Également, tout péché au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de son auteur. Comme lorsqu'il a dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Donc tous ces péchés-là, ils font partie des grands péchés, qui ne sont pas expiés lorsque tu fais tes ablutions, qui ne sont pas expiés d'une prière à une autre, qui ne sont pas expiés de la prière du vendredi à l'autre, qui ne sont pas expiés du mois de Ramadan à l'autre, et ainsi de suite. Ces péchés-là, ils nécessitent impérativement que tu te repentes, c'est-à-dire que tu délaisses immédiatement ces péchés, que tu regrettes de les avoir commis, et que tu aies la ferme volonté de ne plus commettre ces péchés. Et si ceux-ci sont liés à un droit parmi les droits des créatures, alors il t'incombe, pour parfaire ton repentir, de réparer les torts causés. Le grand péché, il est impératif de s'en repentir, contrairement aux petits péchés qui sont expiés par les bonnes actions, comme vous l'avez entendu à travers ces hadiths. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith, toujours rapporté par Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Voulez-vous que je vous indique ce par quoi Allah efface les péchés et vous élève en degré ?» Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il attire l'attention de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, en commençant par leur poser cette question, afin de leur donner envie de connaître la réponse. Bien qu'ils sachent pertinemment qu'ils veulent savoir la réponse, mais ceci fait partie de la bonne pédagogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'attirer l'attention de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Ils lui ont donc dit, bien sûr que oui, ô messager d'Allah. En effet, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils désiraient faire le bien, et ils recherchaient tout moyen par lequel ils pourraient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, se faire pardonner leurs péchés et être élevés en degré. Ils ont donc dit, bien sûr que oui, ô messager d'Allah. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, accomplir parfaitement les ablutions lorsque cela est contraignant, multiplier les pas vers les mosquées et attendre la prière après la prière, ceci est comme la garde, c'est-à-dire la garde sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a indiqué dans ce hadith trois voies de bien, nous permettant de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous faire pardonner nos péchés et d'être élevés en degré. La première voie, le premier moyen, est de parfaire ses ablutions lorsque cela est contraignant. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le fait de t'appliquer lors de tes ablutions, même si cela est difficile comme cela peut l'être en hiver. En effet, en hiver, il fait froid. La personne n'a pas envie de mouiller son corps. Elle cherche plutôt à se réchauffer et à éviter de se mouiller. Mais lorsque vient le moment de la prière, elle doit se purifier. Le croyant va donc accomplir ses ablutions en s'appliquant dans leur accomplissement, malgré la difficulté et malgré le fait que cela est contraignant. Ainsi, celui qui parfait ses ablutions dans cette situation, ceci est une preuve de la perfection de sa foi. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala expie ses péchés et l'élève en degré. La deuxième voie parmi les voies de bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans ce hadith, et qui est une cause d'expiation des péchés, et qui nous permet d'être élevés en degré, c'est le fait de multiplier les pas vers les mosquées. C'est-à-dire que la personne se rende à la mosquée lorsque cela est légiféré pour elle, comme pour les cinq prières, ou alors pour se rendre à une assise de science qui a lieu dans la mosquée. Ces pas que tu fais en direction de la mosquée, tu es récompensé pour ceci. Et plus la mosquée est loin, plus ta récompense est grande. En effet, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui parfait ses ablutions chez lui, puis se rend à la mosquée, et qui n'a pour intention que de prier, il ne fait pas un pas
sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève par celui-ci en degré et expie par ce pas un de ses péchés. Pour chacun de tes pas vers la mosquée, tu es élevé d'un degré et un de tes péchés est expié. Ceci est donc une récompense immense qui également ne doit pas être méprisée. Et on verra dans un autre hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné que la personne doit profiter de cela d'autant plus si sa maison est loin de la mosquée. La troisième action, la troisième voie de bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué dans ce hadith est le fait d'attendre la prière après la prière. C'est-à-dire que lorsque tu te rends à la mosquée pour accomplir par exemple la prière du Maghreb, tu restes à la mosquée pour attendre la prière de l'Isha. Celui dont telle est la situation, ceci indique que son cœur est attaché à la prière. Étant donné qu'il aime cette prière, qu'il désire accomplir cette prière, il reste à la mosquée pour attendre son accomplissement. Et pour cette action, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré et expie ses péchés. Voyez donc encore une fois que ceci est un acte simple qui n'est pas difficile à accomplir. D'autant plus pour celui qui a du temps libre. On entend parfois certains jeunes se plaindre de l'ennui. Ils ne savent pas quoi faire de leur journée. Ils sont dans l'oisiveté. Ils perdent leur temps parfois dans des futilités ou pire encore dans des péchés. Alors qu'ils pourraient profiter de ce temps libre pour saisir ces récompenses immenses afin de s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, se rendre à la mosquée et attendre la prière suivante en occupant son temps dans le bien. Le simple fait d'attendre est une bonne action. Alors que dire si en plus de cela la personne remplit son temps de bonnes actions comme la lecture du Coran, le rappel d'Allah et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que ceci est d'autant plus méritoire et que c'est un grand bien duquel ne doit pas se priver celui qui en a la possibilité. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné ces trois actions, il dit « Ceci est comme la garde, c'est-à-dire la garde aux frontières. Cette action est une action qui a de nombreux mérites. Le fait que des soldats se placent aux frontières des terres d'islam afin de les protéger de l'ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé ces bonnes actions, le fait d'accomplir parfaitement les ablutions lorsque cela est contraignant, de multiplier les pas vers les mosquées et d'attendre la prière après la prière à la garde en période de combat, la garde sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous indique que le fait d'être assidu à la purification, à la prière et à l'adoration de manière générale est une forme de lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es assidu dans tes adorations et que tu es constant dans celles-ci, alors tu es certes sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci, il n'y a pas de doute que c'est un degré éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala a ensuite mentionné un autre hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie les deux prières de la fraîcheur entrera au paradis. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Les deux prières de la fraîcheur, ce sont la prière de l'aube et la prière de l'asr. Et elles ont été appelées ainsi car la prière du fajr a lieu au moment le plus frais de la nuit. Et la prière de l'asr a lieu au moment le plus frais de la journée. Et celui qui accomplit ces deux prières, c'est-à-dire de manière assidue, qui ne les manque pas, qui les accomplit en leur temps, qui remplit leurs piliers, leurs conditions, leurs obligations. Alors, ceci est une des causes parmi les causes d'entrer au paradis. Tu vois donc à travers ce hadith le mérite de ces deux prières, qui sont des prières immenses. Il est confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala: vous verrez certes votre Seigneur comme vous voyez cette lune. C'est-à-dire que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, de la même manière que l'on peut voir la lune ici-bas sans difficulté. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à la fin de ce hadith: alors si vous pouvez ne pas délaisser une prière avant le lever du soleil et une prière avant son coucher, alors faites-le. La prière avant le lever du soleil, c'est la prière du fajr, qui a lieu au lever de l'aube. Et la prière avant le coucher du soleil, c'est la prière d'Al-Asr. Et ces deux prières, les gens de science ont mentionné que ce sont les deux meilleures prières de la journée. Et la meilleure est la prière d'Al-Asr, car c'est la prière médiane, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné au verset 237 de Surat al-Baqarah lorsqu'il a dit « Hafidhu ala s-salawati wa s-salati l-wusta » « Soyez assidus aux prières et à la prière médiane. » Donc le musulman doit prendre garde à ne pas négliger ces deux prières immenses. À être assidu à la prière du Fajr et être assidu à la prière de l'Asr. Et comme on a dit, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie les deux prières de la fraîcheur, cela signifie qu'ils les accomplissent dans leur temps, qu'ils les accomplissent de la manière qu'elles ont été légiférées, en les accomplissant sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme doit accomplir ses prières en commun, et il ne lui est pas permis de délaisser la prière en commun alors qu'elle a les capacités de le faire. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith, rapporté aussi par Abu Musa, radiyallahu ta'ala, anhu, qui a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque le serviteur est malade ou en voyage, on lui inscrit une récompense semblable à ce qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé. » Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Ce hadith nous montre également la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Si tu as pour habitude d'accomplir une œuvre pieuse, quelle qu'elle soit, puis que tu tombes malade et que tu ne peux pas l'accomplir, alors ta récompense complète est inscrite bi'idhnillahi ta'ala. Si par exemple une personne a l'habitude d'accomplir sa prière en groupe, et qu'en raison d'une maladie elle ne peut pas accomplir la prière en groupe, alors malgré qu'il prie seul chez lui, il a la même récompense que s'il avait prié avec le groupe. De la même manière, si une personne est en voyage, et que lorsqu'elle est chez elle, elle a pour habitude de prier un certain nombre de prières surérogatoires, ou alors de lire le Coran, ou de consacrer un certain temps au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'en raison des occupations dues à son voyage, elle ne peut pas accomplir ses œuvres, ne peut pas faire les prières surérogatoires, n'a pas le temps pour s'asseoir et lire le Coran, malgré cela, sa récompense complète est inscrite. Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit la récompense de tout ce dont elle a l'habitude de faire lorsqu'elle est chez elle. Et comme on a dit, ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Et ceci nous indique qu'il convient aux musulmans doués de raison, qui a du temps libre et qui est en bonne santé, de veiller à la multiplication des œuvres pieuses et être assidus dans leur accomplissement. Car si tu profites de ton temps libre et de ta santé pour œuvrer dans le bien, multiplier les bonnes actions, alors le jour où tu en seras incapable, en raison d'une maladie ou autre, ta récompense complète te sera inscrite. Combien de personnes ont été atteintes de maladies? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de guérir les malades parmi les musulmans. Et se sont rendus compte du bienfait de la santé. Ne peuvent plus jeûner, peut-être, plus prier debout, plus se rendre à la mosquée, et ainsi de suite. Ils regrettent énormément le temps qu'ils ont perdu par le passé dans des futilités ou des péchés. Donc si tu es en bonne santé et que tu as du temps libre, tu dois profiter de cela, saisir l'occasion pour multiplier les œuvres de bien. Puis si par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala décrète que tu tombes malade, il t'inscrira la récompense complète de ce que tu faisais lorsque tu étais en bonne santé. Multiplie donc les œuvres de bien pendant que tu en as encore l'opportunité. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala par la prière. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala par le jeûne. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala par les aumônes. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala par la lecture du Coran. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala par le rappel d'Allah, le dhikr. Multiplie le takbir, notamment en ces jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, durant lesquels le takbir est spécifiquement recommandé et légiféré. Multiplie ces paroles simples qui sont pour toi une grande cause de bien et qui seront peut-être la cause de l'expiation de tes péchés, de ton entrée au paradis. Le musulman ne doit pas laisser ces moments précieux partir en fumée, mais il doit en profiter pour se rapprocher de son Seigneur avant que vienne son heure et qu'il soit trop tard pour œuvrer. Wallahu al-musta'an. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement de tout ce qui mène à son agrément, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à multiplier les œuvres de bien tout au long de notre vie et de nous accorder la meilleure des fins. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.